Paso doble.
Paso doble.
Jeudi, polar.
Et aujourd'hui, un polar avec beaucoup de guitare. Bonjour Grégoire Hervier.
Bonjour Toufik Hakem.
Votre dernier polar édité chez Au Diable Vauvert a pour titre Vintage. Et en couverture, qu'est-ce qu'on voit ? Une guitare. Vous qui connaissez toutes les guitares du monde, de l'histoire du rock and roll, c'est quelle guitare qui est en couverture ?
C'est une Gibson Les Paul de 1958 ou 59, donc une guitare vintage, parce que c'est la bonne époque.
C'est ça la bonne époque ?
C'est la meilleure pour les Gibson, oui.
Un jeune musicien, le héros de votre roman est un jeune musicien qui s'appelle Thomas, qui pour gagner sa vie vend des instruments dans un magasin plutôt réputé, et le voilà qui est chargé par son patron d'aller livrer une guitare ancienne chez un collectionneur qui a l'air plutôt riche mais excentrique. Et là, arrivé sur place, dans ce manoir très étrange, il va être happé par une autre aventure et ça devient carrément un road movie, votre livre, puisque Thomas va enquêter entre l'Écosse, la France, l'Australie et les États-Unis sur les traces d'une mystérieuse guitare disparue. Et quelle guitare ? C'est la guitare mythique et maudite, la moderne. C'est une légende ou c'est vrai ça, Grégoire Hervier ?
Alors là, évidemment toute l'histoire est inventée, mais l'histoire de la moderne est vraie, hein, par contre.
Il y a un prototype que tout le monde voudrait avoir parce que cette guitare donnerait un son particulier.
Voilà, c'est ça. Donc à la fin des années 50, Gibson a des guitares qui sont très très bien fabriquées mais qui sont moins à la mode que Fender, Gretsch, d'autres marques qui se développent beaucoup. Et ils veulent lancer une nouvelle série et ils lancent ils créent trois modèles. Il y a la Flying V que Jimi Hendrix a utilisée, qui est une forme de V. Il y a eu 98 modèles créés. Il y a l'Explorer, qui est une sorte de forme d'éclair, où il y en a 22 qui ont été créés. Et il y avait un troisième dessin, dont le brevet a été déposé en juin 1957, mais celle-là n'est jamais apparue sur le marché. Or, les deux autres ont des cotes absolument faramineuses aujourd'hui, parce qu'elles sont très très rares. Donc, on ne sait pas si elle était fabriquée sous forme de prototype, mais si elle l'était, alors, sa cote dépasserait, elle crèverait les plafonds.
Et cette histoire, elle circule dans le milieu de la musique.
Elle n'est pas si connue que ça, mais quand on se renseigne sur les guitares anciennes, on tombe dessus. J'ai découvert un petit peu par hasard, mais voilà. C'est pas une. Il y a un mythe puisqu'on imagine. Enfin, on sait à quoi elle ressemblerait cette guitare, pas dans le détail, mais. Certains connaissent quand même. Hein.
Vous dites certains connaissent, mais moi je pensais que vous étiez l'alter ego de votre personnage Thomas Grégoire Hervier.
Pas tout à fait. Non, c'est un narrateur après sur le goût, ses goûts musicaux, sur le rock, sur l'esprit un petit peu de recherche et d'enquête. Oui, il y a des points communs, mais ça reste un personnage.
Parce que c'est vraiment un polar avec des vrais frissons, parce qu'il y a une intrigue, des poursuites, et des fois c'est très très dangereux pour votre personnage. Il y a beaucoup d'humour, donc une certaine forme de distanciation par rapport au polar classique. Mais ce qui est présent du début jusqu'à la fin, c'est cette envie de revisiter les racines du rock, de reparcourir sa géographie et de redessiner sa mythologie.
Oui, c'est exactement ça, oui. Il y a une partie du roman où c'est les vraies origines du rock'n'roll. Et dans la seconde partie du roman, vient un personnage de fiction qui s'appelle Lee Grand Zombie Robertson. Il y avait l'envie de créer une sorte de nouvelle mythologie du rock'n'roll et plus particulièrement du début peut-être du métal. J'ai joué sur ces deux tableaux. Mais c'est vrai qu'en écrivant un livre sur le rock, chacun a ses périodes préférées un petit peu dans le rock'n'roll, mais je me suis dit que ça pouvait intéresser tout le monde de savoir vraiment d'où ça venait. Parce que les versions un peu générales qu'on entend, on imagine que c'est Elvis Presley, que c'est 1954, etc. En fait, le rock a commencé dès les années 30, quasiment 40, et ça on en entend moins parler. Même les fans de rock'n'roll souvent pense que c'est plus tardif. Ça m'intéressait de retourner aux sources.
Et vous, comment êtes-vous arrivé au rock'n'roll, Grégoire Hervier ? Vous qui êtes né en 1977.
Voilà, c'est ça. ma mère était une fan d'Elvis Presley. Moi-même, avant même d'écouter le... ce qui était à mon époque. Il faut dire que les... quand on était enfant dans les années 80, le rock'n'roll, là, c'était pas la bonne période.
Ah oui, justement.
Donc c'est vrai que via ma famille, j'écoutais plus en français du Twist et aussi les Beatles qui m'ont. Là, j'ai vraiment accroché. Et j'ai toujours aimé la musique des années 60, 70 et aussi même le rock'n'roll d'avant, que c'était plus mon père qui écoutait. Tout ce qui est voilà, lié à Elvis Presley aussi était important.
Mais vous-même, vous avez eu des guitares ?
Moi, je joue de la guitare, ouais, depuis une vingtaine d'années. Pas très bien. Mais j'aime beaucoup, et la guitare électrique notamment, je trouve un instrument d'une richesse incroyable, parce que elle offre une possibilité de son absolument énorme, hein, comme un synthétiseur, mais avec un côté plus organique, plus vivant. Je trouve que c'est un instrument vraiment fabuleux.
Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que, à l'instar de votre héros de roman vintage, Thomas, pour le renommer, est-ce que vous êtes prêt à parcourir le monde pour trouver une guitare?
Ah, j'ai parcouru les endroits que je décris, j'y suis allé pour le roman. Voilà. Donc j'ai fait l'Australie, ça n'avait rien à voir avec le roman, mais j'étais en Écosse à ce fameux manoir. On peut pas y rentrer, mais c'est Bulleskin House qui appartenait à Jimmy Page, notamment. Et aussi, surtout, sur la route du blues, donc que j'ai parcouru à l'envers de son histoire, puisque la route du blues, c'est, on va dire, ça part de la Nouvelle-Orléans vers Chicago, et c'est le blues a commencé à s'électrifier au fur et à mesure qu'il arrivait à Chicago. Les musiques les plus anciennes viennent du Delta, du Sud profond, et je l'ai parcouru à l'envers pour remonter, comme dans mon histoire, où on part plutôt du Nord, et puis surtout après Memphis, vers le Sud.
Et tout ça à partir d'un instrument de musique, la guitare. Ce qui fait que cette histoire universelle du rock, vous la faites passer par Pigalle, oui. Le quartier parisien où on peut trouver des instruments.
Exactement. Ouais, c'est un quartier que je fréquentais pour les guitares quand j'étais adolescent. Il y a que deux endroits à Paris où vraiment il y a des guitares, mais pour moi Pigalle est le plus important.
La guitare mythique et maudite, la moderne, a-t-elle vraiment existé? C'est le but de ce road movie, de votre polar intitulé Vintage. Avant de répondre à cette question, il y a bien sûr toutes les rencontres que va faire durant son périple le personnage, des rencontres qui renvoie à d'autres musiciens ou à des fantômes de musiciens ayant réellement vécu, même si tous les personnages sont des personnages fictifs. Mais avant d'en parler, ce qu'on voulait vous proposer, Grégoire Hervy, comme vous avez écrit un polar en hommage aux guitares, on voulait juste vous faire écouter quelques grands musiciens du rock and roll qui sont cités pour la plupart dans votre polar, et on va voir si vous allez pouvoir nous dire pour chacun d'entre eux si vous reconnaissez la guitare qui joue dans les morceaux. Allez, on commence par Robert Johnson.
Early this morning, when you knocked upon my door. Early this morning. He knocked upon my door.
Robert Johnson en 1937, Beyond the Divine Blues. Est-ce que vous avez une réponse?
Je crois qu'il n'y a eu que deux ou trois photos de Robert Johnson, et celle où il pose avec une guitare, c'est une Gibson acoustique. Bon, les bluesmen de l'époque, je crois, jouaient sur des Stella, qui étaient des guitares vraiment pas chères. Mais en tout cas, sur cette photo, et on suppose que c'est, enfin, je suppose que c'est celle avec laquelle il est enregistré.
Une Gibson L1?
Ouais, ouais. Ah, bah voilà, Gibson L1.
Voilà. Ça, c'est notre spécialiste maison qui nous dit ça. Vous confirmez?
Je confirme alors.
Allez, deuxième morceau. Chuck Berry en 1956.
Johnny be good, who never ever
Alors, sur quelle guitare?
Alors, je dirais une Gibson ES-335.
Ah bah voilà. Troisième morceau, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix en 1968, bien sûr, Voodoo Child. Alors, qu'est-ce que vous en dites, Grégoire Hervier? Quelle guitare utilisait Jimi Hendrix à cette époque?
C'est la célèbre Fender Stratocaster. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'il l'a joué après. Hein. Là, c'est bien une Strat. Mais sur Gibson Flying V, donc un des trois modèles dont je parlais, dont il y a eu les prototypes, sauf que lui a joué sur une version qui a été fabriquée dans les années 60, 67 probablement, mais pas la version de 58 ou de 57 dont je parle dans le roman.
Vous êtes parfait, notre spécialiste Durand Richard Dufour acquiesce. Quatrième morceau, Plaque sa patte. Là, on est déjà dans le planant des années 70, à l'orée des années 70, c'était en 1970. Ouais.
Gibson SG, voilà. Tony Iommi, à qui manquait deux doigts, hein, je crois. Et qui il était ouvrier, et sur une machine à outils, il s'est fait couper deux doigts, mais il a quand même été un énorme guitariste.
Et quand vous répondez comme ça, c'est votre enquête, Grégoire Hervier, qui vous permet de donner ces réponses, ou c'est votre oreille, vous pouvez...
Non, ce serait pas l'oreille, mais après... Sur certains morceaux, si on peut décerner à l'oreille, mais honnêtement, non, c'est parce que je vois les photos. Entre une Gibson Les Paul et une SG, ça va, avec beaucoup de saturation, ça va être très dur de déterminer. Par contre, une Stratocaster qui sonne vraiment comme une Stratocaster, ça s'entend. Oui.
Et enfin, pour terminer, Marc Ribot, grand guitariste que vous devez connaître, bien sûr, Grégoire Hervier, accompagnant Alain Bachung dans un studio d'enregistrement, Les Grands Voyageurs, c'est le titre du morceau.
Les grands voyageurs laissent dans le cœur des ardoises. Les grands voyageurs laissent les tuiles aux Tuileries. Cherchent des amuse-gueules au buffet de la gare. Trouvent des femmes seules pour hommes affamés. À quatre pattes. À quatre pattes. Intact.
Alors,
je pense que c'est une guitare parlor ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est des guitares qui ont du métal. Enfin, c'est des guitares acoustiques, mais avec qui, beaucoup de métal. Ou un dobro, peut-être, on dit.
Ou le National
Steel Guitar, d'accord.
Ouais,
Steel Guitar.
En réalité, on ne sait pas, hein, parce que le Ribot, on l'aime beaucoup ici, mais il gratte aussi bien sur Fender Electric, sur Martin Acoustique, sur une Gibson demi-caisse électro-acoustique. Mais aussi, et ça, on l'a vu dernièrement, quand il est venu ici, il peut jouer sur des copies japonaises un peu cheapos, ou sur des vieilles grattes sans marque, dont les qualités sonores sont dues au fait qu'elles sont plus ou moins déglinguées, justement, parce qu'il aime bien ce son. Est-ce que vous avez aussi travaillé avec les luthiers pour parler de ces guitares vintage, Grégoire Hervier?
J'ai pas travaillé avec les luthiers, mais je me suis renseigné. En fait, le roman m'a été inspiré par une guitare vintage, une petite Silvertone que j'ai achetée. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux guitares anciennes, et comme ça que j'ai découvert l'histoire de la moderne et que ça m'a inspiré pour ce roman. Mais j'ai un peu discuté avec quelques luthiers comme ça, mais plus sur ma guitare que sur les guitares en général. En tout cas, c'est un métier superbe, et c'est des passionnés. Enfin, vraiment, le monde de la guitare m'intéresse vraiment beaucoup.
Est-ce que vous connaissez James Trussard ?
Oui, il travaille à Paris. Il avait un magasin à Paris, à Pigalle. Il fabrique des télécasters en métal, en fait. Et donc des guitares électriques sur des corps avec un corps en métal. Et c'est un concept qui a bien marché. Et c'est des guitares qui sont très, très cotées.
Voilà, et ça me rappelle qu'une soirée, en fait, j'ai passé une soirée avec James Trussard à l'époque où il habitait la Goutte d'Or. C'était d'accord. Il y a une quinzaine d'années. D'accord. Il était très content parce qu'il venait de livrer une guitare à Alain Bachung, justement. Ouais. Et puis, après, plus de nouvelles de James Trussard parce qu'il avait quitté la France pour aller à Los Angeles,
voilà,
je crois.
C'est ça. Oui, je crois qu'il est parti aux États-Unis. Oui.
Où il avait plus de commandes, je suppose.
Sans doute. En tout cas, on en voit encore à Pigalle, hein, des James Trussard qui sont en vente, des guitares gravées superbes. C'est des superbes guitares.
Et aujourd'hui, à quoi ressemble Pigalle ? Est-ce que, puisqu'on on trouve encore des guitares ?
Oui, on trouve encore des guitares. Il y avait deux magasins de guitares vintage. Je crois qu'il n'y en a plus qu'un depuis peu. Mais ça reste, oui, le quartier des guitares, des musiciens. Et je retourne de temps en temps.
Alors il y a plusieurs personnages qu'on croise dans votre polar pendant qu'on recherche cette mythique guitare, un imitateur d'Elvis, un universitaire passionné. Là on se dit c'est un peu votre histoire, hein. Elvis qui a sans doute dû compter pour vos parents, que vous avez pu trouver dès votre naissance, hein, les disques étaient là. Il y a aussi un monde mystérieux où vous imaginez des musiciens très, très doués, mais qui ne sont pas connus. Ouais. Par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure, Lee Grand Zombie, c'est un musicien maudit, mais que personne ne connaît, et qui ressemble, quand vous le décrivez, à Jimi Hendrix, quoi.
C'est ça, un proto Jimi Hendrix, en tout cas avec les mêmes influences comme Muddy Waters. Déjà, c'est vrai qu'il y a des rockers oubliés aujourd'hui, notamment ceux des années 40. Si on prend Guitar Slim, par exemple, qui était un guitariste fabuleux, qui jouait aussi avec la guitare derrière la tête, comme beaucoup plus tard Hendrix sera connu, ou Champion Jack Dupri, qui faisait quelque chose qu'on peut... Entre le rock'n'roll, par exemple, on prend Let's Have a Ball, par exemple. On écoute, on pense que ça vient du milieu des années 50, comme déjà 10 ans. Et ça m'intéressait, voilà, de voir les pionniers vraiment du rock'n'roll. Alors après, moi, la période dont je parle plus, c'est la fin des années 50, et j'imagine que déjà aux États-Unis, peut-être, il y avait déjà quelque chose qui ressemblait au son qu'on aurait à la fin des années 60 et au début du métal, via ce personnage de Lee Grand Zombie Robertson. Et c'est un hommage un peu aux guitar héros qui sont oubliés. Et il y en a eu.
Et puis, enfin, ceci dit, votre histoire du rock reste très anglo-saxonne. Hein.
Ah oui, ça c'est vrai. Ouais.
Vous n'auriez pas pu intégrer des guitares françaises, celle de Françoise Hardy, par exemple.
J'en cite une, la Vigier Excalibur, qui est une guitare française. Là, comme c'était via l'histoire de la moderne, on était à la fin des années 50 aux États-Unis. C'est vrai que le sujet était plus orienté, voilà, vers les États-Unis.
À la fin du polar, tout est bien qui finit bien, on peut le dire ça.
À peu près,
mais bon, c'est-à-dire que
on
échappe au carrelage. En revanche, on apprend plein de choses sur l'histoire du rock'n'roll. Ça s'appelle Vintage, c'est édité au Diable Vauvert. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin, Grégoire Hervier.
Merci à vous, bonne journée.